Chapitre 92. Des perles de sueur scintillent sur le front de Juna. La douleur monte à la vitesse de l'éclair au sommet de sa tête et explose ensuite dans ses joues et son menton. « Je n'ai pas le temps pour ça, » dit Juna, dont la vision est de nouveau presque totalement obstruée. Les pulsations dans sa tête s'intensifient. Il lève une main, cligne des yeux et devine le ciel lumineux au-dessus de la cime des arbres. Frangel lui dit quelque chose, mais les mots ne lui parviennent pas. Une ombre obscurcit soudain toute l'herbe, comme lorsque le soleil se cache subitement derrière les nuages un jour de grand vent. Wrangel s'avance et donne un violent coup de pied dans la poitrine de Juna qui fait quelques pas en arrière en chancelant. L'espace d'un instant, la migraine lui fait perdre conscience. Il reprend ses esprits lorsque ses deux genoux touchent l'herbe et qu'il entend les applaudissements des hommes autour du cercle. « Mon Dieu !» Juna se penche en avant, s'appuie sur ses mains et se redresse. Ses jambes tremblent sous lui. Il ouvre et ferme les mains et sent des picotements dans le bout de ses doigts. Tout ça, ce n'est pas nécessaire. Pas. Il gémit de douleur au moment où l'étoile noire dans son cerveau se fige. Puis se contracte de nouveau. Toby Geritaien, dit Wrangel calmement, avant de lever le genou gauche et de prendre appui sur le sol afin de donner de l'ampleur à son mouvement. Puis il saute et donne un coup de pied avec sa jambe droite. Dans l'action, des brins d'herbe sont arrachés. Juna fait un pas sur le côté, essayant d'esquiver le coup. Mais le dessous du chausson de Wrangel lui effleure la joue au passage. Juna envoie des crochets à l'aveugle. Ses poings s'enfoncent dans la poitrine de Wrangel dont les poumons se compriment. Les coups sont rudes. Et Wrangel atterrit sur le dos, se cognant l'arrière de la tête dans l'herbe. Les yeux écarquillés, il roule sur le côté et se remet sur ses pieds en titubant. La migraine se referme comme une perle noire derrière son œil droit. Juna essaie d'écarter les flashs de lumière en clignant des yeux, et récupère ses lunettes de soleil dans l'herbe et les enfile. Les hommes regardent la scène avec inquiétude. « On peut arrêter de jouer maintenant ?» demande Juna. Oh, Manteshotan ! Wrangel s'approche rapidement, le bras tendu vers Juna, comme s'il le pointait avec toute sa main. Feint un coup de pied, mais donne à la place un coup de poing vif. Cette fois, Juna est concentré sur ses mouvements. Après son entraînement militaire et ses années de Krav Maga, ses muscles réagissent de façon autonome. Il se déplace soudain avec fluidité, fait un pas en avant afin que le coup de Wrangel perde de sa force. Pivote et, dans une torsion, envoie son coude sur la joue de son adversaire. La tête de Wrangel est projetée sur le côté. La sueur gicle dans la direction du coup de poing et de la salive s'échappe de sa bouche. Wrangel tombe en arrière et se rattrape à la veste de Juna pour ne pas perdre l'équilibre. Il sourit, laissant apparaître un filet de sang entre ses dents. Puis lance un faible crochet et frappe Juna dans le cou. Juna voit ses pupilles se contracter et ses genoux se ramollir. Il s'abstient de frapper à nouveau, se contentant de desserrer les mains de Wrangel de sa veste et de le laisser tomber au sol. Wrangel atterrit sur une hanche, dans un bruit sourd, tâtonne sa joue avec la main et tente de se relever lorsque Juna s'empare de sa ceinture noire, l'enroule autour d'un de ses pieds et le tire derrière lui. Les hommes s'éloignent quand Juna le traîne à travers l'étendue herbeuse jusqu'à l'ombre d'un arbre. Allongé sur le ventre, Wrangel tente de se débattre. Sa veste lui remonte jusqu'aux épaules. « Ah, mon sang !» allait-il, confus. Juna s'arrête et lâche la ceinture. Les répercussions de la douleur prennent lentement de l'ampleur derrière son œil, en voyant des paillettes scintillantes dans son champ de vision. Wrangel est encore tout étourdi lorsqu'il se retourne et pose l'arrière de sa tête sur l'herbe. Son menton et son ventre pâle sont maculés de taches d'herbe. « J'ai besoin d'une réponse maintenant, » dit Juna. Wrangel se redresse, crache du sang dans l'herbe, ajuste sa veste, élève les yeux. « Putain, tu te prends pour qui ?» Le vent souffle sur les boules de pissenlit. Et un nuage d'akène virevolte dans les airs. « Tu sais très bien de quoi je parle. Tu m'as menti la dernière fois que je t'ai posé la question. C'est le principe du secret défense. Maintenant, j'en appelle à toi. C'est extrêmement important. Il s'agit de vies humaines. Je m'en fous. Si tu t'en fous, dans 5 minutes, tes 2 jambes seront brisées. Tu me menaces. Absolument. Quelques élèves s'approchent prudemment. Wrangel les regarde, puis s'assied et s'humecte la bouche. Il n'y a pas de fortification dans cette zone. Et si c'était le cas, je ne t'en parlerai pas. Au contraire, il y a une fortification. Et tu vas m'en parler maintenant. J'appelle ton supérieur. Quel supérieur ? L'interrompt Juna. Je suis venu ici à caractère privé et je me fous des conséquences. Lève-toi et continuons le combat. Un petit duvet blanc de pissenlit se colle à l'un des sourcils de Wrangel. Je ne te dois rien, dit-il en souriant. Le spectacle reprend dans 2 minutes. Annonce Juna aux élèves les plus proches. Mais putain, mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Juna s'approche de lui, l'attrape par la jambe et le traîne à nouveau derrière lui. Arrête, bon sang ! Dernière chance, prévient Juna en le lâchant. Ok, tant pis, ça n'en vaut pas le coup, dit Wrangel en se redressant. Je parle si à l'avenir tu m'oublies. Parle. Ce à quoi tu fais allusion est une partie du front sud. Commence Wrangel en lâchant un crachat ensanglanté. Comme tu le sais, le front était une ligne de fortification militaire destinée à protéger Stockholm contre les attaques venant du sud. Je suis au courant, dit Juna. Oui, mais est-ce que tu connais le colonel John Bratt ? Je suis pressé. Il a commencé comme officier à Karlsborg, mais... plus de 100 ans avant ton époque et la mienne. Quoi qu'il en soit, Bratt a été le fer de lance de l'Association de Défense Permanente de Stockholm. Et il a construit des tranchées, des batteries et des forts. Au début de la Première Guerre mondiale, le front sud s'étendait de Tullinge à Erstaviken, à l'est, et pouvait accueillir 40 000 soldats. Mais Moraberg se trouve au sud de ce front. C'est là que nous en arrivons au classement secret défense. Bratt était un stratège avisé, et il a lancé la construction d'une forteresse souterraine au sud du front sud, pour pouvoir tendre une embuscade à l'ennemi en cas de guerre de tranchées. Aujourd'hui, les fronts sud et nord ont perdu leur importance militaire, mais la décision a tout de même été prise de garder le secret sur cette forteresse particulière. C'est pourquoi elle n'apparaît sur aucune carte. Sauf les nôtres, bien sûr. Où est-elle ?